Encore que cette déambulation lui donna l'occasion de méditer un peu, car l'endroit, un monastère, s'y prêtait volontiers. Et cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas trouvée seule, à force de courir dans les jupes d'Andreas. Ainsi elle pensa aux raisons de sa présence ici, à ce que cachait sa détermination à vouloir s'engager dans cette aventure, qui au fond ne la concernait pas vraiment, à ce qu'elle ferait après, à ce qu'elle attendait de sa vie future. Et surtout elle pensa à ses deux compagnons, à la façon dont elle les regardait, car aujourd'hui ils étaient devenus sa seule famille, les deux seules personnes qu'elle connût vraiment et qui la connussent. Et si elle s'était promis de retourner voir un jour Luc et Marie dans leur petit village de Caso, il y avait de grandes chances à présent qu'elle suive Andreas et Robin dans leur retour en France, et donc qu'elle aille jusqu'à Paris. Paris. Et alors le recul que lui offrait l'introspection, ou l'atmosphère de ce sanctuaire peut-être, lui permit de recevoir une soudaine révélation, dont l'évidence n'avait sans doute échappé à ce jour qu'à elle-même. Les sentiments qu'elle nourrissait à l'égard d'Andreas étaient parfaitement ridicules. Et ils étaient injustes. Ils étaient ridicules parce que, comme le lui avait dit l'apothicaire lui-même, ils ne seraient jamais réciproques. Or même si d'un amour à sens unique on fait de très beaux romans, on n'en fait guère une vie. Et ils étaient injustes, car en se perdant dans cette quête perdue d'avance, elle avait fermé son cœur et ses yeux pour le reste du monde. En cela d'ailleurs elle ressemblait à Andreas qui, tout entier à la recherche de son livre, ne voyait plus que lui. Au fond, leur petite compagnie formait un ballet infernal et grotesque, comme celui de trois serpents qui se mordent la queue. Car voilà, Robin aimait à Alice et souffrait de ne rien recevoir en retour. À Alice, croyante aimer Andreas, souffrait-elle aussi de ne rien recevoir et partant se fermait à Robin. Quant à Andreas, eh bien, Andreas, lui, n'aimait plus personne, sinon peut-être ce fantôme qu'il poursuivait de par le monde, mais dont il savait déjà qu'il ne le retrouverait jamais. C'était comme si l'amour, nous le dotons ici d'une majuscule, car ainsi le personnifiant, tels les peintres qui lui attribuent un arc et une flèche, nous pouvons lui prêter quelque intention. Mais le lecteur se doute que ce n'est qu'une image poétique. Car l'amour en vérité n'a ni aile ni flèche, ni ne peut prétendre à la moindre intention. L'amour n'est qu'un mot pour dire ce sentiment si flou qui nous pousse à vouloir pénétrer l'âme et le corps d'un autre, pour n'être plus seul tout en restant un, et qu'ensuite on entretient aussi longtemps qu'on le peut en continuant de lui donner ce nom, car la pudeur nous interdit de dire qu'il est éphémère et se mue invariablement en tendresse dans le meilleur des cas, et en inimitié dans le pire. C'était comme si l'amour, disons-nous, se jouait de ces trois imbéciles, en riant comme on rit quand on a fait une bonne farce. Ainsi Alice se demanda, et pour la première fois, si son amour pour l'apothicaire était bien de celui des amants, ou s'il n'était pas plutôt la reproduction de ce sentiment qu'elle avait aussi éprouvé pour Zacharias, et qui avait quelque chose de l'amour d'une fille pour son père. Et là, soudainement, dans le silence et la paix du vieux monastère, c'était comme si son cœur et ses yeux s'étaient ouverts à nouveau. Et alors un visage était apparu, qui était celui de Robin. De Robin Meissonnier. La jeune fille éprouva un brutal remords, de la honte presque, et la peur même qu'il fût déjà trop tard, car maintenant les choses lui paraissaient plus clairement. Il y avait dans le cœur de l'apprenti une pureté et une bonté qu'elle n'avait jamais vues ailleurs, et auxquelles, pourtant, elle n'avait pas su encore accorder l'attention, l'admiration qu'elle méritait. Contrairement à Andreas, le jeune homme n'éprouvait point le besoin de cacher son humanité derrière le masque de l'ironie, du sarcasme, car elle se suffisait à elle-même, et elle était si franche et si simple que, assurément, elle n'était guère chez lui le produit d'un calcul. Robin était bon, ingénument, et alors elle songea à tous les moments qu'elle avait passés avec lui, les pires et les meilleurs. Et alors elle songea à tous les signes que le garçon lui avait envoyés. Et alors, elle songea à la discrétion avec laquelle il l'avait fait. Et alors elle songea à la peine que son indifférence à elle avait dû